À notre arrivée à Saint-Palais, on nous avait mis comme externe ma sœur chez les dames de Lorette et moi au collège de Monsieur l'abbé Duc. Si quelques professeurs, par leur science aimable et la sympathie dont ils m'honorent, ont conquis mon cœur, ma défiance ne s'est nullement dissipée en général. Cet esprit de brimade, qui est une de leurs manies, ce désir d'humilier de pauvres petits habitués à la douceur familiale, de leur donner envie de sangloter, de passer sur eux la mauvaise humeur qu'ils ont amassée dans quelques discussions conjugales ou autres, m'a toujours révoltée. Cette inintelligence qui ne comprend que la sienne, ce lettré quinquagénaire s'esclaffant parce que vous lui répondez que Virgile est l'auteur des Métamorphoses, cet historien qui prétend vous passionner pour les clauses du traité des Pyrénées, tout cela et tous ces gens ne valent pas un sou au regard d'un merle qui siffle dans la haie. Ma paresse provenait avant tout d'une extrême difficulté à saisir tout ce qui passait par l'école. Je continuais d'appartenir par toutes mes racines aux champs et aux bois que j'avais quittés pour ces tables immobiles et ces murs de prison. Au lycée où j'ai bien souffert, on me disait que j'étais un mauvais élève parce que j'avais la fièvre d'un triste rêve et que j'étais comme blessée. On me fendait encore le cœur. Dans ma classe, je les détestais tous, excepté mon vieil ami. L'on me rendait fou en me donnant de sales places. Je disais que c'était injuste, mais ma sœur et ma mère avaient de la peine. Et c'est comme ça que je fus remplie de haine par de vieux méchants professeurs. Un livre est ouvert devant moi, et soudain, sans qu'on m'en ait prévenu, je vois et j'entends que ces lignes sont vivantes, que deux à deux elles se répondent par la rime, comme des oiseaux ou des vendangeurs, et que ce qu'elles racontent nous enchante à la manière des êtres et des choses qui n'ont pas besoin qu'on les traduise. Je fus tellement pris par ces vers que l'on m'avait donné à apprendre que le soir, mon père m'ayant demandé de les répéter avec lui, un grand sanglot me secoua. Je ne pus parvenir au bout de ma leçon. Je venais de recevoir du ciel ce roseau aigu et sourd, bas et sublime, triste et joyeux, plus âpre que le dard d'un sauvage, plus doux que le miel. La voix d'un crapaud solitaire appelle, aussi pure que la cloche de la chapelle d'un monastère. La boule du portail, le réverbère dans la rue, l'ombre fourchue de la branche d'un chêne indiquent, çà et là, que l'on est sur la terre. Dans la grange, sur le sol dur, bossué, battu, le char dormait avec des rameaux de chêne cassés dans les joints de son bois boueux et fendu. La batteuse au ronflement qui s'enfle avait cessé de tourner au milieu des bœufs patients et des tas de débris minces jonchaient la terre. Les poules du bon Dieu, qui sont les hirondelles, et qui avaient leur nid sur la poutre, tombèrent. Alors deux métayers, lents et adroits, sautèrent sur d'autres et avec des clous fixèrent au plafond un morceau de fer blanc retroussé. Ils l'emplirent de paille et y mirent les petits tombés. Alors on vit la mère des petits oiseaux glisser craintivement dans l'azur en réseaux allongés. Peu à peu, elle arriva au nid. La vie pauvre par ce beau jour d'été m'a paru revêtir toute sa dignité. Regarde la bonne chienne importante d'être pleine. Elle a un museau pointu qu'elle est pleine d'autant plus. Au monde, elle a l'air de dire « Je suis une dame aussi ». Et elle a l'air de savoir qu'elle accomplit son devoir. Mille choses l'intéressent, chiens et voitures qui passent. Elle aura des petits chiens jolis comme des vauriens, qui auront de grosses patines et des museaux tout froncés. Ils crieront gonflés de lait et avec les yeux fermés. Alors le maître viendra, arracher d'entre les bras de la bonne pauvre chienne 3 ou 4 petits chiens. Il les jettera à l'eau et on entendra alors la chienne qui n'a pas d'âme pleurer comme une femme. Allez, il faut partir, c'est le jour de marché. Métayer fait grincer le portail de la grange où la brume froide de la nuit fait trembler le poil roux des bestiaux qui agitent les chaînes. Pose le joug grinçant au front des breux obliques. Toi, femme, prends les coques, les œufs et les paniers. S'il y a quelques nèfles, prends-les. Voici un lièvre qu'a tué ton fils à l'affût, prends-le aussi. Toi, petite paysanne, aux roses joues luisantes et aux petits yeux bleus, mets de la pommade à la rose, mets tes bas violets, ta broche en verre et pose à ton chignon ton mouchoir de soie bariolé. Allez, il faut partir. Allez, il faut partir. Que les troupeaux qui bêlent trépignent, que les chiens inquiets les surveillent, que la flûte de buis résonne et qu'elle passe et repasse au-dessous des lèvres du berger et que son air s'évanouisse dans l'air léger. Que les ânes noueux s'arrêtent puis repartent en remuant la queue sous leur échine dure qui porte les bidons bossués et les hardes. Que le berger aux yeux gris de fer, au nez dur, grandi par la hauteur de son bâton de corne, s'enfonce dans l'azur, dans le givre et dans l'ombre. Allez, il faut partir. Allez, il faut partir. Sur la table massive, pose la nappe, et puis va prendre une assiette, mets-y de l'eau bénite et du noir laurier. Mets deux cierges près du lit et le Christ de cuivre. Allez, il faut partir. Voici le grand azur qui inonde la petite ville. Les paysans sont arrivés pour le marché. Les petits enfants ont des bas de couleur cerise. Ils sont venus le long de la fraîcheur des haies. Là-bas, la neige des montagnes casse le ciel. Oh, que tout cela est doux, est édifiant. On voit des vaches d'or et des cochons d'argent et des vieilles qui vendent du fromage et du sel. La mairie est carrée avec sa vieille horloge qui retarde toujours même lorsqu'elle avance. Et les platanes bleus sous qui l'ombre s'allonge habitent les ménétriers et les hommes qui dansent. En rebondissant légèrement sur leurs sandales blanches, et les filles arrivent et se mêlent à eux. Elles posent à terre des paniers pleins d'œufs et sérieusement et douce, elles dansent. Les enfants regardent luire dans de belles fioles des bonbons tout suants et doux à la salive et l'on voit passer de bien élégantes filles aux doux cheveux noirs et luisants, aux jupes sonores. Elles causent avec les doux adolescents qui tiennent l'aiguillon et qui piquera la coupe des bœufs au front barré qui l'un à l'autre s'arc-boutent, les jambes obliques pour traîner les chars criants. Le retentissement des auberges s'enflamme, le café est versé sur les tables de bois. Les pactes se concluent, élans magnifiques et graves, les pères des maisons et des jeunes fils boivent. Voici une dame montée sur une grande mule. C'est la maîtresse d'une grande maison paysanne. Elle range le linge au fond frais d'une armoire immense, en une salle aux grands rideaux de tulle, où l'été voltige et bourdonne les mouches bleues. Voici encore les jeunes filles des environs. Plus fraîches qu'aux mousses ne sont les mousserons, plus fraises que la fraise au fond du ravin bleu. Voici encore le calme de ma douce chambre. Voici Flore, ma chienne, Voici Marbot, mon chien. Voici Miss, mon chat. Et Litipou, ma chatte. Et les portraits d'amis dans tout cet air ancien. Parmi le thym et la rosée de Jean de La Fontaine, Lièvre écouta la chasse et grimpa au sentier de molle argile. Et il avait peur de son ombre. Et les bruyères fuyaient derrière sa course. Et des clochers bleus surgissaient de vallon en vallon, et il redescendait et il remontait, et ses sauts courbaient les herbes où s'alignaient des gouttes. Et il devenait le frère des alouettes dans ce vol rapide. Et il traversait les routes départementales et il hésitait au poteau indicateur avant de suivre le chemin vicinal qui, blême de soleil et sonore au carrefour, se perd dans la mousse obscure et muette. Ce jour-là, il manqua se buter à la 12e borne kilométrique entre Castétis et Balancin à cause que ses yeux ahuris sont placés de côté. Net, il s'arrêta. Sa gencive, naturellement fondue, eut un imperceptible tremblement qui découvrit ses incisives. Puis ses guêtres de routier, couleur de chaume, se détendirent ainsi que ses ongles usés et rognés, et il bondit par la haie, boulé, les oreilles à son derrière. Et encore, il remonta longuement, tandis que les chiens désolés perdaient sa piste. Et encore, il redescendit jusqu'à la route de Sauvegeinte, où il vit venir un cheval attelé à une carriole. Au loin, cette route poudroyait comme dans Sœur Anne lorsqu'on dit « Ma sœur, ne vois-tu rien venir ?» La sécheresse pâle en était magnifique, amèrement embaumée par les menthes. Un doute, plus fort que tous les doutes qui avaient assailli jusqu'alors l'âme de Lièvre, la lui perça. Ce doute était un grain de plomb qui venait de pénétrer par la nuque dans la cervelle de l'oreillard. Un voile de sang plus beau que n'est l'automne ardent flotta devant ses yeux où se levaient les ombres éternelles. Il cria. Les doigts d'un chasseur le serraient à la gorge, l'étranglaient, l'étouffaient. Son cœur s'alentissait, qui jadis battait comme au vent la pâle églantine éplorée à l'heure matinale où la haie caresse la douceur des agneaux. Un instant, dans le poing de son meurtrier, il demeura immobile, efflanqué, long comme la mort. Puis le vieux patte usé sursauta, ses ongles se crispèrent en vain vers le sol qu'il n'atteignait plus, car l'homme ne lâchait pas. Lièvre finissait goutte à goutte. Soudain, il se hérissa, devint semblable au chaume de l'été où il se gitait auprès de sa sœur la caille et du coquelicot son frère, semblable aussi à la terre argileuse où ses pieds de pauvre trempèrent, semblable aussi au pelage dont les septembres revêtent la colline dont il avait pris la forme, semblable à la bure de François, semblable à l'ornière, d'où il entendait sonner comme des angélus, les meutes aux oreilles pendantes, semblable à la roche aride qui est l'amour du serpolet, semblable par son regard où maintenant flottait une buée d'azur nocturne à la pelouse bénie où l'attendait le cœur de son ami au cœur des oseilles sauvages, semblable par les larmes qu'il pleurait à la fontaine séraphique auprès de laquelle s'asseyait le vieux pêcheur d'anguilles réparant ses cordeaux. Semblable à la vie, semblable à la mort, semblable à lui-même, semblable à son paradis. avec ton parapluie bleu et tes brebis sales, avec tes vêtements qui sentent le fromage, tu t'en vas vers le ciel du coteau, appuyé sur ton bâton de houx, de chêne ou de néflier. Tu suis le chien au poil dur et l'âne portant les bidons ternes sur son dos saillant. Tu passeras devant les forgerons des villages, puis tu regagneras la balsamique montagne où ton troupeau paîtra comme des buissons blancs. Là, des vapeurs cachent les pics en se traînant. Là, volent des vautours au col pelé et s'allument des fumées rouges dans des brumes nocturnes. Là, tu regarderas avec tranquillité l'Esprit de Dieu planer sur cette immensité. La première pelote monta dans un grand silence précédé d'un coup sec. Et elle monta de plus en plus lentement, monta dans une courbe allongée, parut immobile une seconde, puis, déclinant comme un astre, acheva sa parabole en se précipitant et d'un second choc du gandosier que l'on entendit, fut prise et relancée et majestueusement remonta. Et les cœurs cessaient de battre. Et les joueurs dans chaque camp, tout blancs mais ceinturés de rouge, tantôt s'avançaient et reculaient tour à tour dans un mouvement réfléchi, angulaire, tantôt glissaient rapidement en arrière sur leurs sandales, se balançaient, se renversaient jusqu'à toucher leurs talons du bout de leur fronde et se débandant, tapaient. Une sorte de chant étrange annonçait, marquait les points. Mais à midi, du clocher brûlant, s'éparpilla l'Angélus. Et à la première note, la balle qui gravissait dans l'azur sembla demander grâce aux joueurs et sourire. Et eux, se découvrant soudain, la tête basse, demeurés debout, laissèrent leurs bras retomber. La partie prit fin bientôt et les auberges devinrent houleuses, odorantes, jacassantes de vaisselle remuée. Une sorte de lourde ivresse succéda à l'animation. Puis, vers 4 heures, la partie de paume reprit, suivie du saut basque. Les hommes semblaient recevoir du sol je ne sais quelle vertu qui les faisait rebondir avec une telle vélocité que sous la trépidation, ce sol roulait comme un tambour. On ne pouvait saisir le temps où les pieds touchaient terre pour reprendre élan. On ne voyait jamais sous eux qu'un vide en vibration. Chaque danseur, les bras pendants au long du corps comme de longues pennes, est lancé comme une flèche par un arc invisible et relancé avec une telle répétition que le jet semble unique et ininterrompu.